Combien de fois cette semaine est-ce que vous avez pensé que vous en faites pas assez à la maison ou tranche de vie personnelle, que ça fait une éternité que vous n'avez pas vu vos amis ou encore que vous n'aurez juste jamais le temps de faire tout ce qui vous attend au bureau. Je ne vous connais pas, mais c'est sûr que c'est beaucoup trop de fois parce qu'on a beau en parler, en rire, en pleurer et même en noircir les pages de magazine, on n'a pas réglé le cas de la maudite culpabilité des filles. Pourquoi? Les avis sont partagés. Il y en a qui déplorent les exigences énormes de notre société vis-à-vis les femmes, les critères d'esthétisme plus élevés, les rushs sur notre parcours professionnel, les attentes aussi qui sont souvent beaucoup plus grandes envers les mères que les pères. D'autres pensent que c'est plutôt notre obsession de la perfection qui est dans le chemin, les standards qu'on s'impose à soi-même. Bon. Peu importe son origine, il est grand temps qu'on envoie promener la culpabilité et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui dans cette nouvelle balado châtelaine. Alors, au menu de cette balado, on vous parle du défi anti-culpabilité de Châtelaine et de l'EFEA. On va d'ailleurs commencer d'une très belle façon en se vautrant dans le sucre et le gras trans avec Sarah Barrière-Brunet. On va également parler de la nudité des célébrités en gardant notre linge. Et on va finir le tout en beauté avec deux coups de cœur culturels, un livre incontournable et un album country, rien de moins. Bon, salutations à mes collaboratrices du jour, Sarah Barrière-Brunet.
Bonjour Christelle.
Bonjour. Annabelle Moreau.
Bonjour.
Caroline Fortin.
Bonjour.
Et au-delà, là-bas, au loin, notre réalisateur, chroniqueur, homme de la balado, Mathieu Charlebois.
Allô!
Allô! D'abord, avant toute chose, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous la journaliste de la presse, Nathalie Collard, qui vient tout juste de publier l'essai « Qui s'occupe du souper? Travail-famille, l'affaire des deux parents ». Bonjour Nathalie.
Bonjour Christelle.
Merci
bonjour
d'être
les filles.
Là
bonjour
ce matin.
Mathieu.
On est contente de t'avoir. Écoute Nathalie, je vais commencer avec un aveu.
Oui.
Rien de moins. Quand j'ai su que tu publiais un livre sur la conciliation travail-famille, un essai, j'ai ressenti deux choses. Mm-hmm. D'une part, je me suis dit « Ah, je vais sûrement retrouver là des choses qui vont me parler dans ma réalité. Mm-hmm. » Mais j'étais aussi un peu découragée. Je me suis dit « Est-ce qu'on a encore besoin de livres sur la conciliation travail-famille? »
Malheureusement,
oui. Évidemment, la réponse est dans ton livre. La question est encore loin d'être réglée.
Elle est loin d'être réglée, puis c'est un peu pour ça que j'ai écrit le livre, parce qu'après toutes ces années à en discuter, et malgré aussi tout ce qu'on a au Québec pour nous aider dans la conciliation, que ce soit les congés de maternité, de paternité, les services de garde qui sont un petit peu menacés par les temps qui courent, mais qui sont quand même très enviables.
Absolument.
Quand on est dans le reste du Canada ou les États-Unis. Eh bien, malgré tout ça, les gens n'y arrivent pas, les parents n'y arrivent pas. Toutes les études, tous les sondages montrent que tout le monde est à bout de souffle, stressé, épuisé, fatigué. Et ça se répand. Je dirais que ça touche pas seulement les parents de jeunes enfants, ça touche aussi les enfants de parents vieillissants qui doivent quitter le bureau pour accompagner maman ou papa chez le médecin ou pour aller faire une visite parce que notre parent, bon, a besoin d'aide, tout ça, a besoin d'appui. Moi, je la vois. C'est sûr que là, je me concentre dans le livre surtout sur la vie des parents, mais je vois la conciliation comme quelque chose de beaucoup plus large. Puis,
pour la famille au sens large.
Pour la famille, puis je te dirais même pour une question d'équilibre mental, d'équilibre entre la vie professionnelle puis la vie personnelle, qu'on ait des enfants ou pas.
Exactement.
Je pense qu'on n'est pas que des employés dans la vie, on est aussi des êtres humains, puis on devrait avoir du temps pour faire autre chose que travailler.
Absolument, mais évidemment, dans ton livre, tu te concentres beaucoup sur les parents et c'est normal parce que ce sont les premiers à être aux prises avec ce stress immense-là. Oui. D'ailleurs, il y a une statistique, moi, qui m'a un peu troublée, c'est que tu évoques une étude qui dit que plus de la moitié des mères de jeunes enfants se sentent constamment tendues. Donc,
oui.
C'est pas juste vivre des périodes de stress régulièrement, c'est un état permanent, presque.
Oui, oui. Bien, quand on a des jeunes enfants, puis bon, moi, je parle d'une position privilégiée parce que mes filles sont plus vieilles aujourd'hui, puis j'ai du temps pour respirer. Mais je me souviens de cette espèce d'état où tu te réveilles le matin, là, puis ça part, la course.
T'es déjà en retard sur ta journée.
T'es en retard, puis t'es déjà en train de rayer des choses sur ta to-do list là, avant même d'avoir commencé ta journée. Alors, t'es toujours à la course, puis on dirait que la vie fait en sorte qu'il n'y a pas grand-chose qui t'aide à avancer puis à régler des problèmes. Alors, on dirait que c'est une course à obstacles. Alors, ça ne devrait pas être ça, là, la vie. Là. Ça ne devrait pas être une course perpétuelle. Et donc, je trouve que c'est... puis, ce qui m'intéressait, c'est que, tu sais, depuis des années, les femmes se demandent « Est-ce que je peux tout avoir? Est-ce que je peux avoir la carrière? Est-ce que je peux avoir des enfants? Est-ce que je peux concilier mes aspirations professionnelles puis mes aspirations de mère? » Et là, les hommes commencent à se poser la même question. Parce que ce qu'on voit autour de nous, moi, en tout cas, je le vois dans mon milieu, mm-hmm. les hommes sont super présents auprès de leurs oui. enfants. Ils prennent les congés de paternité. Ils ont le goût d'être impliqués. Ils en font beaucoup à la maison. Ils sont là dès les premières semaines de la vie de leur enfant et ils se sont rendus au même point d'où mon constat que le problème est loin d'être réglé, c'est que...
Absolument.
Là, on est deux à mettre l'épaule à la roue. Les femmes en font encore un peu plus que les hommes, mais on est quand même deux à mettre l'épaule à la roue. Et malgré ça, on n'y arrive pas. Et là, les hommes se posent la même question. Ah, est-ce que je peux faire les deux? Comment je fais pour travailler, être performant au travail, mais être un bon père? Mm. Puis eux, je te dirais qu'il y a un obstacle supplémentaire, bizarrement, c'est que dans bien des milieux de travail, c'est très, très, très mal accepté.
Absolument.
Quand un gars dit, hey, excuse, moi, la réunion
mon enfant
à 5
heures.
Là.
Oui, c'est ça.
Ouais, mais puis même
la garderie,
là,
oui, c'est ça.
Tu sais, la réunion avant 9 heures le matin, là, c'est pas possible. C'est très mal vu. Tu peux... Hier, j'ai fait une ligne ouverte dans une émission et les gens appelaient. Il y a des hommes qui appelaient. Ils disaient, moi, là, je perds tout respect au travail. Si je dis ça, j'aurai jamais de promotion. J'avancerai pas dans mon entreprise. Alors, c'est un peu pour ça aussi que j'ai écrit le livre parce que j'ai envie d'entendre les hommes sur la place publique dire que c'est important la conciliation travail-famille puis revendiquer eux aussi des mesures. Puis que ce soit pas juste vu tout le temps comme une question de femme, un problème de femme, puis ultimement un problème d'organisation personnelle. Tu sais, voilà. T'as voulu travailler, organise-toi.
T'as voulu avoir des enfants.
Ben, c'est ça.
Ce qui est frappant, tu l'expliques bien dans ton livre, dans le fond, le but aussi de ce livre-là, c'est que tu souhaites que la conciliation ne soit plus un problème individuel et ne soit plus non plus un problème typiquement féminin.
Exactement.
Donc, que les hommes se sentent autant concernés, comme tu dis, de le mettre de l'avant et que les politiques du temps social soient mises en place, mais aussi en entreprise. Tu parles de ce volet-là qui demeure, je pense, encore le chantier en conciliation.
Parce que je dirais, tu sais, sans que ce soit parfait, puis c'est certain que si on se compare aux États-Unis, on est bien chanceuse, mais si on se compare aux pays nordiques, il y a encore du chemin à faire. Mais je dirais que l'État québécois a quand même fait un bout de chemin, mais l'entreprise, le secteur privé, eux aussi ont leur part à faire. Et puis, s'il faut parler leur langage, langage de profit, rentabilité, productivité, bien, un employé heureux et équilibré, c'est plus productif
Absolument.
Qu'un employé. En burn-out. Mm-hmm. Et il y a plein d'études présentement, c'est un champ d'études très à la mode, la diversité. Plus ton CA, puis plus ton équipe de direction est diversifiée, hommes, femmes, communauté culturelle, tout ça, plus à la fin de l'année, ça va paraître dans ton rapport annuel, ça va paraître dans tes profits, tout ça. Alors, si c'est ça qu'il faut comme argument.
On a même l'argument de chiffre, là, ici.
Bien, on va le prendre, tu sais. Ouais. Alors, pour que des femmes montent dans l'échelle, dans une entreprise, bien, il faut qu'il y ait des mesures qui les aident à monter. Il y a une étude qui est sortie récemment, 74 % des avocates de la défense au Canada ont quitté la profession. Et une des trois raisons nommées, c'est la conciliation travail-famille. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là.
Incroyable. On se prive de candidates extraordinaires
aussi.
Tout à fait. Et c'est ça, la société, le milieu des affaires, il perd au change également.
Tout à fait. Ouais. Alors, je pense que le secteur privé, c'est certain que vu d'un employeur, la conciliation travail-famille, puis il y a des gens qui me l'ont confirmé là, dans mes entrevues, ça fait peur.
Oui.
Ça va coûter cher, ça va faire des jaloux dans l'entreprise parce que ceux qui n'ont pas d'enfants vont dire « Ah, ben c'est ça, ceux qui ont des enfants ont des passe-droits », d'où l'importance de présenter ça comme des mesures de conciliation travail-vie personnelle.
Oui.
Puis après, si tu veux aller faire du surf en arrière d'Habitat 67, c'est ton droit. Là. ça coûte pas si cher que ça. Les employés, ils veulent pas nécessairement une garderie en milieu de travail. Là. Ils veulent peut-être un cellulaire pour être rejoint plus facilement, une demi-journée de télétravail de temps en temps. Puis là, on s'entend que le télétravail, c'est pas à la portée de tout le monde. Si t'es caissière dans un Provigo, tu peux pas l'amener chez vous, ta caisse. Il faut que tu sois sur place puis que tu travailles sur place. Mais il y a peut-être d'autres mesures qu'on peut offrir, ou c'est une pause plus longue, des heures concentrées, je sais pas. Les infirmières, c'est la même chose, c'est d'autres mesures. Tu sais, pourquoi les infirmières? Moi, je viens d'une famille où il y avait plein d'infirmières. Ils travaillaient des heures de fou, travaillaient la nuit, la fin de semaine, et le jour où il y avait des horaires normaux, ben les enfants étaient grands, élevés et tout, puis ils avaient presque pas vu. Alors, il y a toutes sortes de choses là, à réfléchir, puis c'est pas des mesures qui doivent être si chères et si compliquées. Mais on peut
encore
faire preuve de créativité.
Oui,
là.
Encore faut-il que ce soit un souhait collectif.
Bien, c'est ça.
Et non pas un choix.
Puis il y a beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, en fait, très connus, très en vue au cours des dernières années, qui ont fait des déclarations choc. Puis on se dit, est-ce que c'est de l'esbrouffe? Est-ce qu'ils font ça juste pour le côté PR de la chose? Mais quand même, il y a des choses intéressantes qui ressortaient de leurs déclarations, à savoir, si moi, je ne la prends pas, la mesure que j'offre à mes employés, personne ne va la prendre.
Oui.
Donc, il faut que
endosser ça, oui.
Exactement. Fait que des fois, on rigole, mettons, Mark Zuckerberg a pris 2 mois de congé, on se dit, ben oui, il y a 15 personnes pour ramasser la couche sale en arrière. Mais moi, je trouve que c'est important, le symbole, parce que ce gars-là, un, il vient d'un milieu hyper macho, sexiste, horrible, Silicon Valley. Et deux, il y en a qui le voient dans leur soupe, là, Mark Zuckerberg.
Oui, son influence
est
extraordinaire, ben oui.
Alors, c'est un symbole, la valeur symbolique de ce qu'il a fait, moi, je la trouve importante. Puis si ça peut inspirer d'autres jeunes geeks ou de jeunes entrepreneurs à se dire, ben, hey, Mark Zuckerberg l'a fait, moi aussi, je vais le faire. Puis lui, il présente ça de façon si positive, là, tu sais, d'avoir été avec sa fille, on le voit nager avec elle dans la piscine, tout ça. Ben, tant mieux. Alors, s'il y a des hommes qui vont sur la place publique, des gens de l'entreprise privée qui vont sur la place publique en disant « Hey, c'est important, la famille », mais qui, comment on dit en anglais, là, qui « walk de walk », là, pas juste les paroles, c'est beau, mais les gestes aussi, ça compte. Alors, ben, tant mieux, parce que je pense qu'ils sont capables de faire leur part aussi. Tu sais, on en donne beaucoup à nos employeurs. Dans la vie, là, on compte pas nos heures souvent, mais aussi, eux doivent contribuer puis redonner.
Mais surtout qu'on a la preuve que c'est payant à long terme. Sauf qu'on sait qu'à quel point il est difficile de changer les choses bien en place depuis des décennies. C'est une culture assez récente. Donc, il faut aussi on comprend aussi qu'il y a une crainte, mais si collectivement on l'endosse, on a peut-être plus de chances que ça bouge.
Je vois une nouvelle génération, là, les Marianne Préry, puis Geneviève Peterson, tout ça, qui moi, me séduisent, et je trouve ça complètement en ballant le discours de ces filles-là, qui sont beaucoup moins dans la perfection que les filles de ma génération, et puis qui sont, qui n'ont pas peur de dire qu'elles passent du temps avec leurs enfants, puis aiment ça, puis c'est important, puis c'est une priorité pour elles, puis on ne croit pas qu'elles sont moins ambitieuses ou qu'elles ont moins d'idéaux quant à leur carrière puis tout ça, mais je trouve qu'en tout cas, de l'extérieur, je les regarde aller puis je me dis, mon Dieu, ils ont l'air à bien balancer les deux, puis ça a l'air plus agréable.
Je pense que le message qui commence à ressortir, c'est oui, on peut tout avoir, mais peut-être pas tout en même temps.
Ah, ça, c'est sûr.
Il faut s'accorder le droit de dire, ben là, pour telle période, je me consacre plus dans tel aspect de ma vie. La vie est longue, et on se le souhaite, mais on aura la chance de s'investir davantage plus tard. Mais il faut qu'on se sente le droit de le faire et qu'on ne se sente pas nécessairement jugé au moment où on le fait.
Tout à fait. Mais c'est sûr que si tu es PDG d'une entreprise, tu ne seras pas à la maison tous les soirs à 5 heures. Là, j'ai bien hâte de voir, notre nouvelle ministre de l'Environnement dit qu'elle ferme son sel de 17h30. À 20h30 tous les soirs, sauf le jeudi. J'aimerais ça voir ce que ça donne dans les
faits. T'essaieras de l'appeler à 19h30 mercredi.
En tout cas, ben, hier, elle était à Washington et puis elle dansait au souper d'État. Alors, elle n'arrêtait pas à la maison.
Elle n'était pas en train de les réunir.
mais tout ça pour dire que moi, j'ai trouvé ça chouette quand elle a fait cette déclaration-là, parce que c'est la preuve que ça se peut.
Oui.
Quand même, il y a des choses que tu peux aménager. Puis d'ailleurs, il y a Dominique Leblanc à Ottawa qui se penche présentement là, sur la conciliation travail-famille chez les parlementaires au fédéral. Puis parce que sont toute une belle gang de jeunes parents là, à Ottawa maintenant. Alors, j'ai hâte de voir ce qui va ressortir de ça, parce que je suis sûre qu'ils vont trouver des façons. Puis dans mon livre, Louise Arel me disait, j'ai interviewé Louise Arel et sa fille pour voir la différence entre les deux générations. Puis elle me disait, regarde toutes les nouvelles mesures, toutes les mesures qui ont été adoptées à Québec, que ce soit la semaine de relâche, le fait qu'il n'y a pas de débat passé telle heure le soir, bien, c'est des femmes qui ont poussé pour ça, puis l'Assemblée nationale n'a pas fermé, là, tu sais, parce
qu'on fonctionne encore.
On a adopté quelques mesures pour faciliter la conciliation travail-famille.
Oui, excellent. D'ailleurs, il y a beaucoup de témoignages dans ton livre. C'est un des aspects très intéressants, je trouve, des témoignages de gens qui ont des carrières différentes, des réalités différentes, des pères, des mères. Donc, c'est vraiment riche.
J'avais goût des entendre. C'est sûr que j'avais eu 6 recherchistes comme dans les essais américains, puis une avance de 500 000 $.
Mais on est au Québec.
Mais j'ai fait les entrevues toutes moi-même, puis je les ai tapées moi-même. Puis donc, ça fait que mais je trouvais ça important de donner la parole, puis d'être dans le
concret aussi. De l'incarner, en fait, voilà. Je termine juste en te parlant rapidement. Nathalie, Châtelaine et l'EFEA lancent ces jours-ci une espèce de mouvement anti-culpabilité.
Quelle bonne idée.
On invite les filles à partager sur leurs réseaux sociaux des vidéos, photos ou des phrases où elles expliquent comment elles se sont débarrassées de la culpabilité.
J'aurais tout écouté ça.
Sur quel aspect elle aimerait y arriver? Alors, si je te demande ça, toi, sur quel aspect tu aimerais y arriver? Ou à moins que ce soit déjà fait.
Eh mon Dieu, non. Moi, je transpire la culpabilité à chaque heure de ma vie. Je suis vraiment pas un bon exemple. Je vais embarquer dans le programme. Je vais essayer. Moi, je me sens coupable de tout
le
temps.
Ah bon? OK.
J'en fais jamais assez pour mes enfants. Puis mon chum te dirait que j'en fais beaucoup trop. Je me sens même coupable de pas passer assez de temps avec mon chien, là.
OK. Ça va
pas jusque là. Si j'avais un poisson rouge, je me sentirais coupable pour le poisson aussi. Non, non, moi, je suis pas super perfectionniste, mais je culpabilise facilement. Ouais,
t'as vraiment. De grandes attentes envers ce que tu devrais faire.
Ah, des attentes beaucoup trop élevées, vraiment là.
Écoute, on va souhaiter que notre mot-clic t'inspire des trucs. Merci beaucoup de ta présence parmi nous. Je rappelle le titre de ton essai, Qui s'occupe du souper, travail, famille, l'affaire des deux parents. C'est aux éditions Québec-Amérique. On met la référence complète, évidemment, sur la page de la balado, chatelaine.com/balado. Et là, si tu veux vraiment déjà t'initier à l'anticulpabilité, tu nous accompagnes à notre prochaine chronique. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Once upon a time there lived a man and his name was Hezekiah. He walked with God both day and night, but he didn't want to die. He cried, oh Lord, please let me live, death is close, I know. God smiled down on Hezekiah and gave him 15 years to go. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Lord, I want to go to heaven, but I don't want to die. Go along for the day when I'll have a new birth. Still, I love living here on earth. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Alors, on vient d'entendre un extrait de l'album dont on va nous parler un peu plus tard. Mathieu Charlebois, aujourd'hui, va nous amener dans l'univers d'une icône du country de 83 ans. J'ai hâte d'en savoir plus là-dessus. Mais là, je dois avouer que mon intérêt pour le country est un petit peu dissipé par les scones que je vois sur la table.
Ça te déconcentre.
Qui nous mène à Sarah Barrière-Brunet, qui est derrière les scones, et qui va nous aider à manger sans culpabilité en nous présentant des bonnes adresses de fast-food.
Exactement. Donc, on a tous une relation spéciale avec la junk food. Moi, je juge que je vis ça très sainement. La nourriture...
Tu gères bien ta malbouffe?
Je gère bien ma malbouffe. La nourriture avec beaucoup de lipides, de sodium. J'aime ça. Je vous fais un petit historique. Moi, je viens d'une famille qui mange très santé, parents végétariens, tout ça. Donc, mes lunchs au primaire, c'était le sandwich au végé pâté, la luzerne et le pain intégral. Puis moi, je rêvais d'un sandwich...
Et d'un Joe Louis.
c'était l'inatteignable pour moi. Là. Moi, je voulais le sandwich au jambon, moutarde jaune, pain blanc. Puis, je réalise aujourd'hui que si j'avais 10 ans, je serais la reine de la cafétéria avec mon lunch ultra santé.
Je serais très populaire aujourd'hui.
Exactement.
Sans déchets, s'il te plaît, par exemple.
C'est ça. Mais c'est ça. Donc, le fast-food, c'est spécial pour moi. Donc, je voulais vous partager mes adresses coup de cœur du moment. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de chez Tousignan.
Oui, mais je ne suis pas allée encore, par exemple.
Il faut y aller. C'est un nouveau petit casse-croûte de la petite Italie qui crée le buzz depuis son ouverture parce que ils font tout maison. Le pain, la saucisse, les frites, la sauce, mais ça goûte le vrai junk food. Fait qu'on se déculpabilise un peu en se disant...
C'est artisanal.
C'est artisanal, c'est salé, mais c'est du bon sel.
C'est local, je cherche des bons mots.
Hashtag local. Puis ceux qui sont derrière ça, c'est les chefs Stefano Feita et Michele Forgioni. Et l'instigateur du projet, c'est Yann Turcotte, qui travaille avec eux chez Impasto et la pizzeria Gemma. Mm-hmm. Donc moi, quand je suis allée, j'ai goûté au burger tout garni, au hot dog, aux frites. J'ai partagé, je vous rassure. mais donc, c'est ça, c'est vraiment un lieu à visiter. Puis après, je passe au sucré.
OK, là, on s'est bien bourré dans le sodium et dans le gras.
On a atteint notre niveau de saturation de sodium. Donc, je vais vous parler d'une nouvelle adresse qui est arrivée il y a peut-être 2 mois dans la petite Italie. C'est trop de beignes. C'est des beignes fancy, comme on pourrait dire, avec des saveurs comme orange sanguine et pistache, s'mores, érable et bacon, pâte à biscuits, thé matcha. Donc, pour avoir goûté à toutes ces saveurs,
oui,
encore une fois.
Tu coches toutes les cases. Tu donnes la forme à ton travail, Sarah, j'aime ça.
Je suis en recherche, donc c'est important pour moi de tout goûter. Donc, c'est tout bon, en fait. Moi, j'ai adoré celui érable et bacon. J'ai fait goûter à mes collègues aussi. Est-ce que vous aviez...
Je dois avouer que j'ai eu le bonheur de me vautrer dans l'orange sanguine et pistache.
Oui, c'est mon préféré.
Ah oui, c'est ça.
Il n'en restait plus après votre passage, pour informer tout le monde. Puis, je dirais que mon dernier plaisir coupable se trouve sur notre table en ce moment, c'est les scones. Ma collègue Annabelle pourrait témoigner mon amour incontestable de cette pâtisserie anglaise au goût de beurre. C'est qu'il y a un nouveau café.
Pas juste au goût de beurre, qui en contient beaucoup.
Exactement. Christelle, j'essaie d'être dans la non-culpabilité. c'est qu'il y a un nouveau petit café dans le centre-ville au métro McGill qui s'appelle My Little Cup, qui sert le café de Dispatch, qui est excellent, mais aussi les fameux scones de Godley et Crème. On retrouve des saveurs comme courge et fromage de chèvre. Ici, on a pomme et cheddar, champignons. Oui,
j'ai un œil sur champignons, moi, là.
Exactement. Donc, quand ça l'a ouvert, moi et Annabelle, on a développé une dépendance. Puis, pour contrôler notre dépendance, on s'est dit que le vendredi était la journée des scones.
Alors, hashtag
vendredi scones. Vous pouvez embarquer avec nous si vous voulez dans cette dépendance.
Donc, ça veut dire qu'il n'y en a plus le lundi.
Non. En fait, c'est le vendredi qu'on est dans la non-culpabilité et qu'on se vautre.
C'est un premier pas.
Dans les scones.
Ah, parfait.
Est-ce que vous avez des adresses non coupables? Ben,
moi, quand tu parlais de Beng tout à l'heure, je dois avouer que j'habite beaucoup trop près de chez Crémy.
Ah, c'est dangereux. Mmh.
Le roi du Beng qui a même gagné un concours aux États-Unis.
Quand même,
tu sais, berceau du beigne gras. Puis, c'est très, très bon. Il a réinventé la roue de tracteur qui est au citron. Puis, en plus, il est ultra sympathique. Fait qu'on peut se faire croire qu'on y va pour l'encourager.
C'est fait maison.
Bon. Ça coche plein de cases et c'est surtout très bon. Fait que c'est une autre adresse à ajouter.
Je suis d'accord avec
toi. Et là, est-ce qu'on peut convenir qu'on est rendu
on peut manger la bouche pleine et parler.
Je nous enverrai gentiment vers un thème musical pour nous donner le temps de manger, manger une bouchée. Merci, Sarah.
Ça fait plaisir.
Le jingle est fini. Je trouve que le thème musical a été un peu court.
Oui.
Bon, alors, le thème musical dont mijote l'actu est trop court pour se bourrer de scones. Alors, on va être obligé d'attendre quelques secondes. C'est maintenant l'heure de la chronique On mijote l'actu, où on vous parle d'une nouvelle virale et on vous propose une recette pour mieux la digérer. Annabelle Moreau, bonjour.
Bonjour, Christelle.
C'est toi qui as tergiversé de longues heures sur le sujet de la chronique de cette semaine. Hésitant entre les pandas, le féminisme. Et là, finalement, tu t'es tournée vers les Kardashians. Toujours une valeur sûre.
Une valeur sûre. Ils sont là.
En termes de viralité,
ça va bien.
On les aime. Ça roule tout seul. Donc, oui, cette semaine, pour la journée des femmes et non la journée de la femme, Kim, donc la plus connue de cette belle grande famille, nous a fait une surprise. Donc, elle a publié sur Instagram et sur Twitter un nouveau éco-portrait d'elle. Nue, évidemment, ce qui différenciait un peu de ses autres égo-portraits.
Est-ce que c'est la première fois que
Et non, elle a même sévi depuis. Okay. Donc, cette semaine, son égo-portrait, donc, elle nue, dans sa salle de bain, avec deux bandes noires, stratégiquement disposées, et une signasse blonde. On ne sait pas trop si c'est une perruque ou c'est, la nouvelle tendance pour ses cheveux. Et on pouvait lire « Lorsque l'on n'a rien à se mettre, lol ». Donc, c'était lundi soir.
Éloquent. Donc, quand j'ai rien à mettre, je pourrais opter pour le costume d'Ève.
Voilà,
d'accord. Donc, vous allez apprécier, je sens.
Donc, c'était un beau cadeau. C'était lundi soir, donc pour la journée des femmes. Mardi, c'est réagi très fort sur les médias sociaux. On le sait, la famille Kardashian, c'est une habituée des polémiques sur Internet. On connaît leur émission aussi, l'incroyable famille Kardashian, qui est diffusée depuis 2007, mais on ne sait jamais trop entre qui Kourtney, Kim, Khloé, Kendall ou Kylie va faire le plus parler. Donc, cette semaine, c'est davantage, encore plus que la nudité, les selfies, la vie des gens riches et célèbres. C'est vraiment au corps de Kim qu'on s'est attaqué dans une campagne extrêmement virulente.
Oui, parce que ça n'a pas seulement fait jaser par curiosité.
Non,
c'est
parce que
vraiment, on lui a reproché, évidemment, ce geste-là.
Oui, puis encore plus, on a vraiment critiqué son corps et le fait de poser nu. Et c'est venu un peu, pas maladroitement, mais de d'autres célébrités. Je voudrais vous en citer deux. Une jeune actrice de 19 ans, Chloé Grace Moretz, qui a écrit sur Twitter « Kim Kardashian, j'espère que vous réalisez à quel point il est important de montrer aux jeunes femmes qu'il faut se fixer des buts dans la vie et leur apprendre qu'il est plus important à montrer que nos corps. » Et autre tweet qui a fait grand bruit de Bette Midler.
Ah oui, elle tweet.
Oui, très intéressant d'ailleurs. Elle dit « Kim Kardashian a tweeté un selfie d'elle nue. Si elle veut que l'on voit une partie d'elle que l'on n'a jamais vue, il faudrait qu'elle avale la caméra. »
Ah, OK. Ça mérite d'être clair.
Oui, donc j'arrête là.
C'est fou ce qu'on peut dire à 140 caractères. C'est
oui, mais bon. Et pour répondre à tout ça, Kim a publié une lettre ouverte sur son site où elle invite vraiment les femmes à disposer de leur corps comme elles le veulent. Elle se fait la porte-parole de la liberté des femmes et elle tente de rallier toutes les femmes à sa cause, en fait, pour les inciter à avoir une meilleure estime d'elles-mêmes et se sentir bien dans leur corps. Elle nous écrit « Je prends pas de drogue, je bois à peine et j'ai pas commis de crime. Et voilà que je suis un mauvais exemple parce que je suis fière de mon corps. » Bien sûr, on peut toujours critiquer la manière qu'elle le fait, mais bon, le message est là quand même. Et depuis, elle a récidivé. Deux jours plus tard, elle a déjà republié une autre photo d'elle nue. Pour répondre à ses détracteurs. Mais ce qui est très intéressant dans ce dossier-là, c'est qu'il y a d'autres personnalités, évidemment, qui ont détourné le selfie de Kim en
à la blague.
À la blague. Mais pour l'encourager, c'est venu de sa demi-sœur Kylie Jenner, qui a pris une photo dans une posture identique, mais elle avec des sous-vêtements noirs. On a eu Sharon Osbourne, de 63 ans, qui a fait exactement la même pose, mais qui a dit « Kim, tu m'as inspirée ». Et notre préférée ici dans l'équipe, évidemment, c'est Ellen DeGeneres, qui a repris la photo et qui s'est invitée dans la salle de bain de Kim. Donc, Ellen est dans le bain avec une bande sur la poitrine et une serviette sur la tête et qui dit qu'elle est contente d'être avec Kim. Donc, je trouvais que c'est important aujourd'hui peut-être de s'arrêter un moment puis de se demander... Pourquoi toute cette vague de haine-là sur les médias sociaux? Mais en contrepartie, il y a une vague aussi de sympathie. Puis je me demandais si c'était vraiment juste une mode de se soutenir entre filles, finalement, sur les médias sociaux, un peu avec ce qu'on voit avec Taylor Swift. Est-ce que les filles vont se désolidariser ou c'est seulement pour des petits micro-événements? C'est pas un micro-événement, là, Kim Kardashian.
Peu importe ce que fait Kim, ça n'est pas un micro-événement. Mais moi, c'est une bonne question. D'ailleurs, on parle déjà de body shaming depuis un bout, puis il y a plusieurs chroniqueurs, blogueuses, ont été sûrement témoin Nathalie aussi des commentaires désobligeants que reçoivent les femmes.
Tout à fait. Il paraît, je lisais l'autre fois un commentaire qui disait « Ah oui, les commentaires à la presse sont particulièrement, il paraît qu'on est reconnu pour récolter des commentaires super poches. »
Ah oui? Okay. Oui,
ben c'est quelqu'un qui disait ça, un habitué des sites de commentaires, mais c'est vrai que quand j'ai plusieurs collègues qui se sont souvent plaints, je pense à Marie-Claude Lortie, entre autres, moi j'ai été éditorialiste 5 ans, là, il y avait pas tant de commentaires que ça, mais je recevais l'équivalent en courriel avec des insultes là, vraiment liées à mon sexe. Là, je passerai sur les détails. Écrit en majuscule de 36 points. Là, tu sais, quand j'ouvre mon ordi le matin, là, ça saute en plein visage. Alors oui, on se permet de dire des choses à des femmes qu'on se permet pas de dire à des hommes. Puis il faut lutter pour ça. Puis je pense qu'effectivement, dans les commentatrices, journalistes, tout ça, il y a une solidarité quand même. Puis on aime bien maintenant dénoncer publiquement aussi, puis pointer la personne, montrer la personne du doigt. Absolument. Puis comme ça, elle va se sentir cheap.
Que ce soit aussi moins anonyme et consente. Mm. C'est vrai que la solidarité, c'est peut-être la nouvelle donne dans ça. Ouais. Parce qu'avant, je pense que chacun pensait qu'elle le vivait de façon
Tout à fait. Avant qu'on se mette à écrire là-dessus, puis à en parler, tout le monde, c'est comme un peu une maladie honteuse. Là, sais pas si t'es la seule à l'avoir, mais finalement, pas mal toutes les femmes reçoivent des messages comme ceux-là. Puis c'est vraiment...
D'ailleurs, il y a Lily Boisvert qui animait l'émission Sexplora, qui a publié hier un article sur Urbania qui, elle, sur son ordinateur, elle a un dossier qui se nomme harcèlement et elle prend des print screens de tout ce qu'elle reçoit. Puis c'est vraiment c'est une forme de réplique aussi de publier ça puis de vraiment montrer que c'est pas normal de recevoir autant de messages haineux.
C'est aussi grave quand c'est fait via les réseaux sociaux que quand c'est fait en personne ou en chair en os. Mais les gens ont l'impression qu'ils sont un peu protégés, il y a une impunité parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Moi, souvent, quand je recevais des messages bêtes et agressants, tout ça, je répondais à la personne.
Ça change
tout.
Et là,
ça gelait. Je sentais, parce que j'avais l'impression que les gens envoyaient des messages puis ils s'imaginaient que ça tombait dans un grand trou noir ou qu'il n'y a pas un être humain à l'autre bout qui reçoit ça. Alors, je prenais le temps à chaque personne. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire, monsieur ou madame. Votre ton est un peu... deux fois sur trois, la personne s'excusait. « Ah oui, je m'excuse, là, j'ai réagi trop fort, je suis désolée. » C'est parce qu'il y a quelqu'un, là,
accroché le câble.
Oui, c'est ça.
Mais
non, c'est ça. Juste rappeler que c'est pas parce que tu commandes publiquement que t'as pas de sentiments, d'émotions, puis tout ça. Puis bon,
Enfin. Mais bon, on peut penser qu'au moins, il y a quand même cette vague de solidarité-là qui oui. permettra un petit peu de... On ne changera probablement jamais complètement ça, mais si on peut rendre les gens peut-être un peu plus imputables de leurs de leurs commentaires, ça pourrait être sympathique. Et là, est-ce que tu nous as trouvé une recette?
Oui, oui,
c'est ça l'idée. De,
après les secondes, hein?
Non, on fait juste manger à Jacqueline.
Je vous parle d'une recette de gâteau, en fait, pour accompagner, digérer le...
La nouvelle virale.
La nouvelle virale. Donc, c'est une recette de Naked Cake.
Ah, ça, c'est à propos.
Très affreux.
Donc, vous la trouverez sur notre site. On vous propose une recette de naked cake au parfum d'ananas, gingembre et de lime. Mm-hmm. Et nous avons aussi une galerie photo. Comment le monter étape par étape. Donc,
Est-ce que tout le monde sait ce qu'est un naked cake?
Moi, je ne sais pas, mais je pense qu'il devrait avoir honte. Quel exemple il donne aux autres gâteaux?
Non, mais on lui a mis des petites bandes noires à chaque étage.
OK, ça, c'est correct.
C'est en fait un gâteau qui se retrouve à être à peine recouvert de glaçage. On voit le gâteau, oui, c'est ça. Non, c'est très appétissant. On est toujours dans le sucre et dans le gras. C'est super. Merci beaucoup, Annabelle, pour ton mijot de l'actu. Caroline Fortin, responsable de notre section culture et de notre club de lecture. Bonjour.
Bonjour.
Ta première intervention à la balado.
Oui, je ne suis pas du tout stressée.
Non, non, ça va bien aller. Caro, tu veux nous parler aujourd'hui d'un livre, toi qui en lis énormément et qui en reçoit beaucoup ici. Un livre qui t'a particulièrement plu, de Martine Desjardins.
Oui, c'est ça. Je vous parle de La Chambre verte, qui est un roman publié chez Alto et signé Martine Desjardins, qui tient aussi la chronique livre dans le magazine L'Actualité. Puis, dont le dernier livre remontait à il y a 7 ans, Maleficium, qui avait gagné le prix du gouverneur général. Alors, on est à Ville-Mont-Royal, dans les années 1910, puis c'est l'histoire d'une famille de méga gripsous, les Delorme. Ils sont pas chiches parce qu'ils ont pas de revenus, parce qu'ils sont propriétaires d'un immeuble d'appartement. Donc, les Delorme, ils mènent une vie sans aucun excès ni agrément autre que celui d'accumuler de l'argent. Alors, pour donner quelques exemples d'avarice, pour eux, un petit luxe, c'est de s'offrir une deuxième tasse d'eau chaude après le souper.
D'accord. C'est la simplicité volontaire avant l'heure.
Aucun dessert. À son mariage, Estelle apportait sa robe du dimanche, puis son bouquet, c'était des pissenlits ramassés sur son terrain. Leur voyage de noces, c'était un exotique tour de tramway à travers Montréal. 25 ans plus tard, pour leur anniversaire de mariage, sans s'être consultés, se sont chacun offert une pièce de 25 sous, un sou par
mais
année d'union.
Ressemble, ça semble, dans ce cas-ci.
Oui, ils sont très bien assortis. Oui. Alors, la chambre verte du titre, c'est une chambre forte à la cave que le père de Dollar, Prosper.
Ah, parce qu'il s'appelle Dollar.
Et son père s'appelait Prosper.
D'accord.
A aménagé pour entreposer.
C'est pas particulièrement subtil.
Non, c'est des noms pas mal d'adons. Donc, cette chambre forte-là sert à aménager, sert à entreposer la fortune familiale. Puis, c'est là que, quand ils étaient enfants, leur fils unique, Vincent, a dû jurer de protéger le trésor et qui a prononcé la prière inventée par ses parents, qui va comme suit et qui est basée sur le Notre Père. Alors, c'est « Notre dollar qui est précieux, que votre fonds soit crédité, que votre épargne arrive, que votre versement soit fait au trésor comme au livre. » Donnez-nous aujourd'hui notre intérêt quotidien et pardonnez-nous nos dépenses comme nous profitons des sous qui nous sont avancés. Ne nous laissez pas succomber à la spéculation, mais préservez notre capital, nanti soit-il. Ah. Alors, on voit comme ils sont
c'est
un peu crinqués.
Inspirant.
Et un jour, il y a une demoiselle qui vient cogner à leur porte pour louer un de leurs logements. Et elle s'appelle Penny Sterling.
Oh, on est toujours dans la subtilité.
Oui. Et son compte de banque bien garni excite grandement Estelle et Dollar. J'ai étudié Dollar, je pense que c'est Louis Dollar, son nom, pardon.
Louis Dollar, d'accord.
Mais il y a Dollar dans son nom quand même. Puis, donc, ils se mettent en tête de la marier à leur fils Vincent, qui est maintenant âgé de 24 ans, et allant même jusqu'à faire de folles dépenses, comme une boîte de pâtisserie française. Alors ça, ils sont très choqués de dépenser de l'argent pour acheter...
Du sucre.
Mais Penny, elle n'est pas celle que l'on pense. Et là, je n'en dirai pas plus pour ne pas gâcher le plaisir de personne. Et ce qui est original dans ce roman-là, c'est que c'est une saga familiale qui est racontée par la maison.
Ah, c'est la maison qui fait la narration.
Oui. Et cette maison-là, elle met son grain de sel dans la vie des Delorme et elle participe même au dénouement que je qualifierais pour rester dans le
thème d'impayable. Oh! Alors, c'est ça, c'est un récit truculent, puis qui est aussi, qui a beaucoup de recherches derrière, parce que ça se passe à l'époque où la Canadian Railway voulait percer un tunnel dans le Mont-Royal. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait un tunnel sous le Mont-Royal, alors j'ai fait des petites recherches, et puis c'est ça, tout la toile de fond est réaliste et, mm-hmm. et basée sur des faits historiques.
Et même ce tunnel-là, en fait, il y a eu tout une espèce d'arnaque immobilière autour. Oui. C'est-à-dire que la personne qui voulait creuser le tunnel savait qu'elle voulait le faire, puis ils ont réussi à faire monter le prix des terrains autour.
Exact.
Puis, grosse arnaque. Tant qu'à parler d'argent, même le tunnel est un...
C'est approprié, d'accord. Ouais. Et donc, on n'est pas dans un roman fantaisiste. C'est juste que...
Malgré le fait qu'une maison vous parle, on n'est pas dans un roman
et qu'elle intervient physiquement dans l'action. Donc, je vous le recommande chaudement. Et c'est La Chambre verte de Martine Desjardins aux éditions Alto. Et ça va être en librairie le 22 mars.
Excellent. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Mathieu Charlebois, qui a déjà, évidemment, mis son grain de sel. Tu es donc déjà parmi nous. Tu as quitté ta console. Tu sais peut-être, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, que je ne suis pas une grande fan de country. Mais là, quand tu me dis, je vais te parler de la Johnny Cash, et elle a 83 ans, j'avoue que j'étais intriguée.
La version féminine de Johnny Cash, un peu. Si on veut vraiment classer les gens et donner des repères.
Ça prend une étiquette, on aime ces étiquettes.
Mais t'es pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi j'aime tous les styles sauf l'opéra, le métal puis le western. » C'est généralement dans ce temps-là que ça va, mais là ici on a affaire à une légende du country américain qui roule sa bosse depuis 50 ans. Excusez-moi, mais ici je vais faire pause sur la balado. J'étais en train de faire le montage et je me suis rendu compte que ça prend au moins 3 minutes avant qu'on nomme la chanteuse dont on parle. Donc la chanteuse s'appelle Loretta Lynn et son disque s'appelle Full Circle. Maintenant que vous savez ça, on peut continuer. Là, ici, on a affaire à une légende du country américain qui roule sa bosse depuis 50 ans. Et donc, elle a 83 ans, donc elle a commencé quand même assez tard, dans le fond, à 23, à 33.
33, plutôt, je vais pas te...
Et donc, rendu à 83 ans, on s'entend que tu prépares chaque nouvel album comme si c'était ton testament ultime. Tu sais que c'est probablement, potentiellement, ton dernier. Et donc, elle prépare son leg à l'histoire de la musique depuis 2-3 albums déjà. Un peu comme Johnny Cash, justement, l'avait fait à la fin de sa vie avec sa série American, qui est un disque où est-ce qu'il y avait des reprises de Nine Inch Nails, puis il y avait c'était vraiment un retour aux sources, tout en étant très, très moderne. Ici, on n'a pas les reprises de Nine Inch Nails, elle est un peu plus classique, mais quand même, en 2004, elle avait enregistré un album avec Jack White, des White Stripes, qui lui avait donc fait un emballage un peu country garage, qui rockait chouette, un peu plus que le disque dont je parle aujourd'hui. L'album suivant, c'est un album de duo avec un paquet d'invités jeunes, un peu indie, un peu branché. Et pour Full Circle, donc cercle complet, l'album dont je parle aujourd'hui, elle y va pour un disque de country, du western, du vrai, du simple. Hein. Et visiblement, on a voulu faire un album intemporel. On a voulu faire quelque chose qu'on pourrait pas facilement dater puis écouter en disant « Ça, c'est en 85, hein, écoute la batterie. » Donc, c'est un son très, très naturel. Le son de studio est le plus straight possible. Il y a des guitares, il y a des mandolines, il y a de la slide, il y a de la contrebasse, tous les instruments classiques de ce style-là. Et au milieu de tout ça, la voix. La voix de Loretta Lynn, qui a une voix absolument incroyable. Et encore plus quand on sait qu'elle a 83 ans. Le milieu de ses notes sonne comme si elle avait encore 23 ans. À la fin, évidemment, elle n'a plus le muscle pour retenir la note comme on le fait quand on est jeune, mais c'est pas un défaut. Elle a juste c'est un instrument de 83 ans, puis personne ne reproche à Johnny Cash de sonner vieux à la fin de sa vie. Il avait 78 ans, lui aussi. C'est un style de country qui mise beaucoup sur l'authenticité des sentiments. Hein. Donc, avoir du vécu, c'est un gros avantage. Parce qu'une fille de 25 ans qui parle de ses regrets et des amours qu'elle ne reverra plus jamais...
Ce qui est une formule gagnante dans le
c'est
country.
C'est ça. C'est cute. Ça peut être touchant un peu, mais c'est surtout cute. Quand tu as 83 ans, soudainement, les regrets, puis les gens que tu ne reverras plus, puis quand tu vas être parti, qui va se souvenir de toi... Ça a un petit peu plus de poids. Donc, il y a beaucoup de ça dans ce disque-là. C'est des chansons à elle, des classiques du country. Elle reprend des pièces comme In the Pines, qu'on va écouter à la fin, qui est un classique du style. Des chansons qu'elle a déjà interprétées. Elle a même écrit des nouvelles chansons pour celui-là, au moins deux. Tout se mélange super bien. On entend les différents styles qu'elle est capable d'aborder. Elle fait tout ça de façon extraordinaire. Vraiment, Full Circle s'appelle l'album. C'est une belle réussite. Si vous ne la connaissez pas encore, Loretta Lynn, si vous n'êtes pas habitué de nager dans le country, si vous aimez les femmes d'expérience, c'est un bon album pour vous.
Excellent. D'ailleurs, on va avoir un autre avant-goût. On se quitte là-dessus en musique.
La chanson In the Pine.
Excellent. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette balado et on se retrouve très bientôt.
In the pines where the sun never shines and a shiver when the cold winds blow. My love, what have I done to make
you treat me so. You've caused me to weep, you've caused me to mourn, you've caused me to lose my home. In the pines where the sun never shines, and a shiver when the cold wind